Radio Campus Bruxelles 92.1.
La conspiration.
Bienvenue à la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus. Et c'est la rentrée, la première émission de la saison, une saison qui s'annonce déjà costaud. Tous les théâtres quasi ont ouvert leurs portes et proposent leurs créations. J'ai à mes côtés Nicolas et Catherine. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Salut à tous.
La conspiration, c'est comme chaque mercredi, 19h-19h30 en direct et en rediffusion le jeudi dès 13h30, donc la petite demi-heure pour épingler les spectacles qui ont lieu à Bruxelles. Un regard évidemment critique, il n'y a pas de promotion directe dans l'émission, c'est bon de le rappeler de temps en temps. On ira sans cette émission au public pour voir Orphéon de Stanislas Coton, un duo sur l'homosexualité, Catherine, que tu es partie voir pour nous. On ira dans un nouveau lieu, le Cartago d'Alenda S, un lieu un peu industriel, pour un Pilade Pasolini que Nicolas est parti voir. On ira au Tanner pour une drôle de pièce qui s'appelle It's My Life and I Do What I Want. C'est sur un peintre introuvable sur le net. Ça existe ou ça n'existe pas, allez savoir. On ira faire un tour du côté du Théâtre de Poche qui a présenté hier son spectacle Odyssée, un périple sur l'immigration clandestine. Et on ira même vous parler d'un spectacle qui a lieu à Tour et Taxi en plein air par le CAI Theater. Mais là, je me retourne vers Nicolas. Nicolas, toi, tu es parti voir ce nouveau lieu, hein, Cartago d'Alenda S.
Ah oui, pour une reprise, en tout cas, pour une reprise de Pilade, de Lazare Gousseau, donc un spectacle qui est proposé dans le cadre de l'ouverture de la saison du Rideau, le Rideau qui cherche encore un lieu. Bref, voilà, Cartago d'Alenda S, tu disais lieu industriel, en effet, ancienne usine de volets mécaniques dans le fin fond d'Anderlecht, tout près de la gare de l'Ouest, qui nous propose ici un texte de Pasolini. On sait que le Rideau a déjà exploré Pasolini par d'autres textes, Affabulazione, Bête de style, et ici il confie à Lazare Gousseau, qui s'occupe aussi du Cartago d'Alenda S, eh bien pour monter ce Pilade. Alors, un peu de mythologie et d'histoire, Agamemnon a eu notamment un fils avec Clytemnestre, il s'appelle Oreste. Après la mort d'Agamemnon, Égiste épouse Clytemnestre et chasse les enfants d'Agamemnon de là-bas. Reviennent Électre et Oreste. Oreste tue Clytemnestre et Égiste et puis s'en va, fuit la ville après ses crimes. Il revient en ville. Et il s'adresse à la population d'Argos qui est là et lui demande « Ben voilà, je suis là, je suis prêt à reprendre le pouvoir à une seule condition, c'est que vous retirez mes fautes, c'est-à-dire que vous me jugiez et que vous me dites « Ben voilà, vous êtes innocent, Oreste, et vous pouvez nous diriger » et aussi créer une sorte de première démocratie qui éclôt ainsi à Argos. Et pourquoi, d'où lui est venue cette idée? Eh bien, dans le Pilate, on apprend que la déesse Athéna, descendue de l'Olympe, eh bien, descend vers Oreste pour lui révéler le pouvoir, la puissance du pouvoir du peuple aussi, et puis créer ainsi une sorte de démocratie, Athéna, la raison.
Voilà. Qui est la raison, et voilà. Donc c'est aussi la fin du règne des dieux.
Voilà. Tout à fait, bien qu'elle soit une déesse aussi, hein, ça, c'est toute la démocratie comme nouveau dieu, voilà, c'est un petit peu ce qui est dit dans Pasolini. Pasolini, en fait, on sait que dans ses pièces, il faut savoir qu'il a hissé le théâtre, et puis il a été malade, et il a écrit 6 textes d'un coup, 6 pièces d'un coup, et il nous offre notamment ce Pilade qui retrace aussi.
Ça a l'air
aussi
compliqué comme ça, mais il faut dire aussi que c'est en même temps une métaphore du XXe siècle, avec communisme, fascisme, et surtout, qui préfigure la société de consommation qui nous étrangle un petit peu aujourd'hui.
Alors pourquoi ? Parce que Pasolini a voulu brasser en effet toute l'évolution politique du XXe siècle et il s'est passé pas mal de choses justement au niveau démocratique à ce sujet-là. Alors Pilate, c'est qui ? C'est le compagnon d'Oreste en fait au départ et qui tout d'un coup fait un peu la voix dissonante dans ce discours démocratique et dit « Ah oui, ok, la démocratie, mais pourquoi Oreste et pourquoi pas moi ?» Enfin, il se fait porter par toute une insistance comme ça. Et du coup, bah, on est toujours dans cette antiquité. On ressort de la ville, on va créer des troupes de l'autre côté, on prépare l'assaut.
C'est-à-dire l'opposition.
L'opposition, voilà, mais qui n'est pas dans la ville. Mm-hmm. C'est ça qui est là. Alors, que nous propose Lazare Gousseau autour de ce texte contemporain qui nous parle de vieux sujets, mais dans la contemporanéité? Il nous propose d'investir ce lieu de manière un petit peu particulière. Il dispose dans cet espace, dans ce grand hall désaffecté et industriel, ces spectateurs en arc de cercle autour d'une espèce de forum, de place, de village, de grande ville, avec un tas de barbelés, des poules qui se promènent comme ça, hein, c'est assez drôle, et aussi tous les personnages qui déambulent autour de nous, et on suit en fait ces personnages. Alors comme c'est à la manière des tragédies grecques, il y a aussi des chœurs qui sont là, qui viennent planter le décor, qui racontent « Ah, voilà Oreste qui arrive, nanana ». Et aussi, nouveauté, ça interpelle directement les personnages, donc il y a tout ce jeu-là qui se fait. Dans une sobriété extrême, c'est-à-dire que pas de toge ni tout ça, ce sont des vêtements quasi quotidiens pour chacun des personnages.
Oreste et Pilate sont en jeans et chemise blanche, tout le monde est en costume. Et en plus,
retroussée.
C'est à la lumière du jour à 19h30.
C'est pour ça que ça commence à 19h30. C'est pour jouer sur la lumière du jour et le jour qui tombe, parce que au fur et à mesure de la pièce, au fur et à mesure que Pilate s'affirme, on sent que la démocratie peut-être serait menacée par son arrivée, et donc toute la nuit qui commence à tomber. Deuxième partie, après l'entracte, là on joue sur un jeu de lumière tout à fait différent, qui est avec des points de lumière, des sources lumineuses qui viennent un petit peu partout, hein. On reste toujours dans ce jeu où les comédiens déambulent dans le spectacle, et pendant le spectacle, entre les spectateurs, et aussi des lumières qui viennent de l'extérieur, un spot qui vient. Et là, la deuxième partie est plus consacrée aussi au dialogue intérieur de Pilate, hein, vraiment, qui se pose des questions du côté de sa colline, et l'intervention d'Athéna également, le Deus Ex Machina, qui arrive pour tenter de régler la situation. Alors, c'est comment ? Je sais pas, je suis
c'est
pas
un
seule
beau
à l'avoir
voyage.
Vu.
C'est un beau voyage qui dure 3 heures. Il faut aimer le théâtre bavard, quand même, hein.
Mais faut pas oublier que ça vient d'Italie. Donc, on imagine toute la langue italienne qui est là derrière.
Et c'est les années 70, parce que dans le texte, il y a Michel Fabien, qui est une auteure, qui est feu, une auteure de belge, qui a travaillé tous les Pasolini dans la scène des années 70 en Belgique, avec Lee Benz, PM et toute la clique. C'est vraiment cette époque des années 70-80 belge, on va dire.
Alors,
Catherine, toi, tu voulais dire.
Donc, on a un texte. Pas confus, mais je vais dire touffu. Voilà, c'est ça que je cherchais.
Oui, mais le lieu compense largement pour cet effort-là. Et c'est vrai qu'il y a une magie du lieu qui fait qu'on est embarqué pendant 3 heures, on est accroché. Les comédiens jouent dans quelque chose de très brut, très spontané, en contact direct avec le spectateur. On est tout le temps dedans. On n'est pas, il n'y a pas de dispositif frontal ou quoi. On est plongé dedans pendant 3 heures.
Oui, moi, je voudrais pas gâcher votre bonne humeur, les gars. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des tunnels d'ennui et de temps en temps, il y avait des moments d'éclat dans la confrontation, dans le discours. Moi, j'ai pas aimé à un moment donné. Il y a plein de descriptions. Par exemple, quand la raison vient, elle prend des plombs pour expliquer. On a des discours comme « De la montagne, je venais, ma jeunesse sur un arbre », des choses qui sont un peu plombantes. Et de temps en temps, les confrontations sont super belles. Moi, j'ai eu un petit problème avec le jeu qui est très inégal de toutes ses troupes, hein.
Ah oui.
Mais Pilate est très prenant, juste, même quand à un moment donné il rentre dans une quasi-folie, hein, dans un texte qui vient des tripes. Oreste est très, très beau comme jeu.
Dans une simplicité extrême, je
trouve. Qui est dans un ton quasi neutre, quasi un peu anodin. Et certaines filles, Électre, que moi j'aime beaucoup, qui est Marie Luçon, ici elle a des jeux ainsi au premier degré, dans une énergie un peu gueulante. Donc moi j'ai eu un peu de mal avec l'inégalité des jeux, avec ces tunnels d'ennui qui nous amènent à un beau débat, et finalement on se dit le tas de fils barbelés qui reste sur place. Finalement, tu te dis qu'est-ce que tu en as fait de ta scénographie, à part nous mettre des poules, bon, c'est mignon, mais comme tu dis, Catherine, il y a une magie du lieu qui
Moi,
prend.
Je l'ai vu il y a 2 ou 3 ans, hein, mais je me souviens de ce drap qui tombe comme ça à la fin. Ça, c'est un effet bœuf quand même, non ?
Mais on se demande pourquoi. Moi, je me suis dit pourquoi à un moment donné, ils sont sur une estrade, ils font tomber un drap. Moi, à un moment donné, je me suis dit qu'est-ce que ça vient faire ? Par exemple, les intermèdes musicaux. Ça n'apportait pas grand-chose, mais dans les 3 heures, je me suis dit 1h15 aurait compacté tester un peu cette pièce. Moi, j'ai parfois subi la chose.
Mmh. Puis c'est peut-être aussi la peur de toucher à Pasolini, à son texte aussi, qui est aussi énorme. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé parce que c'est quand même aussi une belle performance. Le jeu inégal, je conviendrai de ça un petit peu aussi avec toi, Nurten, par moment. Mais voilà, je crois que ça vaut quand même
c'est
le détour.
C'est une belle aventure, d'autant que Lazare Rousseau, qui met en scène, je crois, a mis des années pour travailler cette pièce. Hein, Catherine,
ça a mis 5 ans.
Tu l'avais vu à la création il y a quelques années.
En 2010.
Toujours à Carthago, je crois.
Oui. C'était la toute. Je crois qu'ils ont répété pendant 2 ans. Ils ont fait des ateliers pendant 3 ans. C'était un très long processus. Là, ils remettent tout sur le métier parce qu'ils changent de distribution. Il y a quelque chose de très intéressant.
Voilà. En tout cas, Carthago, c'est un nouveau lieu. Il y aura des expos, des performances, des concerts et des pièces de théâtre de temps en temps. Nicolas, tu nous donnes les dates?
Oui, c'est à voir jusqu'au 29 septembre. Et c'est toujours à 19h que ça commence. Et c'est toutes les informations sur www.rideaudebruxelles.be.
Voilà. Alors, après Pilade, à plusieurs personnes dans un atelier, là, je crois qu'on va descendre dans une cave, Catherine. C'est au public. Et là, c'est un duo pour Orphéon.
C'est ça, un style très différent puisque très intimiste. Ça se passe dans la cave du théâtre Le Public. Pour deux comédiens, c'est une pièce de Stanislas Coton. Et c'est très subtil parce que c'est une histoire d'amour. On comprend vite que ça va être une histoire d'amour entre deux hommes. On comprend que ça va être sur l'homophobie, donc ça va mal finir. Mais tout ça se fait avec énormément de délicatesse, parce que moi je trouve qu'on parle beaucoup d'homosexualité au théâtre, mais c'est toujours soit hyper provocateur, la manière du poche, il y a plein de sexe et tout.
Ils s'embrassent rapidement, sauvagement.
Voilà, c'est un petit peu du rentre-dedans, soit on est dans le style de la Toison d'or, où là on est plus dans le côté extravagant, comique. Là, on n'est vraiment ni dans l'un ni dans l'autre, on est dans quelque chose de très sensible. Oui, ce sont deux hommes, mais finalement, pendant une bonne partie de la pièce, c'est pas ça qui est important. C'est une histoire d'amour. Orphéon, c'est Pietro Pizzuti, qui est un écrivain public, un petit peu bohème, très poétique, qui tombe amoureux de Elmer, etc., qui lui rêve d'une carrière en politique. Et voilà, donc ce sont deux mondes opposés, mais qui vont se rencontrer, vivre une belle histoire d'amour. Le politicien va réussir sa carrière, va être élu maire. Sauf qu'ils vont à la fin aller se promener sur une plage et vont tomber sur les mauvaises personnes. Et là, ça va devenir dans le texte très sanglant, sauf que dans la mise en scène de Virginie Thirion, tout est fait en douceur, donc il n'y a pas aucune effusion de sang, il y a juste le mur du fond qui prend des couleurs un peu rouges. La langue est très très belle, l'écriture de Stanislas Coton, donc c'est voilà, une belle pièce qui a été écrite sur mesure pour Pietro Pizzuti, et ça se sent, ça lui va comme un gant. Moi je ne l'avais pas vu jouer depuis très longtemps. Et là, il est à croquer, quoi.
Mais est-ce qu'on est dans un théâtre de récit? Est-ce que c'est deux personnes qui racontent ou on passe du jeu au récit?
C'est les deux. C'est une mise en scène assez réaliste. Hein. Ils s'embrassent, ils vivent leur histoire d'amour par ellipse, hein, puisque ça avance dans le temps comme ça. Et la mise en scène est très très minimaliste. Il y a juste un plateau en bois et puis ce mur de fond qui change de couleur, qui devient bleu quand ils sont à la mer.
Est-ce que le message c'est l'homophobie? Est-ce qu'on en sort dérangé?
On en sort touché parce qu'on se dit c'est vrai, même en Belgique où on a un premier ministre homosexuel, où la législation a fait beaucoup de progrès par rapport à d'autres pays dans ce domaine-là. Même en Belgique, il y a pas si longtemps que ça, il y a encore eu des meurtres
à Liège,
directement homophobes.
Mmh. Et comme quoi, les lois ne changent pas une société, ou en tout cas les mentalités, de manière rapide.
Non. Des années pour changer les mœurs et les mentalités. Hein.
Mais ce qui est très fort, je trouve, dans cette pièce, c'est que justement, ça ne dénonce rien. On y pense, mais à la fois, on est dans une histoire théâtrale, dramatique, parce que c'est du théâtre. Et voilà, ce sont deux hommes, mais qui ont leur personnalité, leur histoire, leur histoire d'amour. Et ça se regarde avec beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de douceur. C'est le mot qui revient.
Allez, l'histoire d'amour douce entre les hommes qui se termine mal à la Pasolini. Orphéon au théâtre Le Public dans la cave. Hein, tout est fait pour l'intimité. Et c'est
jusqu'au 20 octobre au public, donc.
www.lepublic.be, une pause musicale.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches.
Oui, et on va direct au Tanner pour un très très bel ovni hein, que Catherine et moi avons vu en même temps. It's my life, I do what I want. Rassurez-vous, c'est en français et peut-être en irlandais, Catherine.
Oui, c'est la réussite de la semaine pour moi. Mm-hmm. C'est une pièce que nous proposent Guy Dermulle et Pierre Sartenard sur ce qu'on pense être le destin mouvementé d'un artiste né à Rotterdam qui aurait rencontré les plus grands, qui aurait accompli plein de choses dans sa vie, qui aurait trouvé les théorèmes de Gauss, qui aurait peint les monochromes à la Soulage, qui aurait rencontré Beckett et Grotowski, enfin voilà.
Tout le XXe siècle.
Tout le XXe siècle, et d'après la pièce, on est passé à côté d'un génie sans le savoir, sauf que si on va sur Wikipédia, on trouve aucune trace de ce fameux Willem Krohn.
Mais vraiment aucune. Donc Willem Krohn, K-R-2-O-N.
Et c'est ça qui est très fort, c'est que, selon mon hypothèse, mais elle n'a pas été confirmée, donc c'est mon point de vue, mais ce Willem Krohn n'a pas existé, sauf qu'il est prétexte à toute une traversée du XXe siècle, de l'histoire de l'Europe, des mouvements artistiques, d'une certaine prétention aussi d'une élite intellectuelle, et tout ça présenté sous la forme d'un exposé faussement autobiographique, faussement académique, les deux comédiens sont là avec un projecteur, nous montrent des extraits vidéo, nous montrent des livres, passent des extraits des bandes son de la BBC. Tout ça a l'air très vrai, des affiches du Festival d'Avignon. Sauf que je pense moi que tout est faux évidemment, mais fait avec un souci du détail incroyable, et surtout c'est très drôle. Donc par exemple il y a ce moment où il rejoue un extrait d'une pièce qu'aurait écrite ce dramaturge, qui voulait dénoncer l'absurdité de la guerre 14-18 et qui a placé les spectateurs pendant 2 heures devant ce plateau où il n'y avait aucun comédien, juste deux machines à s'envoyer des balles de tennis et deux haut-parleurs qui se balancent des insultes pendant 2 heures. Et tout ça pour dire que finalement ça prend 10 minutes pour réaliser l'absurdité de la situation et que cette guerre elle a quand même duré 4 ans.
Tout est finement mené, parce que Sartenard, c'est un ancien de Transquinquennale et Guy Dermulle. Alors, les connaissant un peu, on se dit, ces gens, ils ont souvent un humour un peu pince sans rire, un peu intello, et c'est bien, ils sont bien capables de faire une méga supercherie, un canular qui est très bien foutu. Ici, on n'est vraiment pas dans l'idée de farce et attrape, hein, c'est pas des gadgets et tout, on est vraiment dans une pièce qui est construite comme si ce gars existait. Donc voilà, ce qui se passe, c'est qu'on traverse le XXe siècle, alors ils sont tantôt dans la conférence, tantôt évidemment ils nous font des arrêts sur image, on va aller voir la pièce, on va aller voir un extrait, tout est bien construit, les documents d'époque ont l'air des documents d'époque, et tout ça est prétexte à parler du siècle et à parler, par exemple il y a toute une discussion sur le langage, où on va rechercher un fou, Louis Wolfson, qui lui a vraiment existé, on trouve sa trace sur le net, ils ont des livres à l'appui, ils montrent les maisons d'édition, donc Louis Wolfson a fait un bouquin sur le schizo et les langues parce qu'il supportait pas sa langue maternelle, il était en conflit avec sa mère, donc il s'est fait tout un trip sur des langues différentes. Toutes ces références, on le retrouve. On parle d'Arte Povera avec quelques images d'époque et d'artistes, tout ça existe. Beckett, les extraits ou bien les textes que Beckett aurait écrit à ce gars existent. Et là-dedans, toutes les pièces de Krohn ou les œuvres de Krohn sont tellement bien faites et en même temps tellement fausses. On est dans l'idée du faussaire hein, qui joue sur une œuvre d'art qui est totalement fausse. C'est super bluffant et surtout, bon, une fois qu'on sait ça, ça nourrit le spectacle. Mais le spectacle, on ne se dit pas en le voyant, c'est faux. On rentre dans cette histoire. On est dans l'Arte Povera, c'est un prétexte à expliquer qu'est-ce que l'Arte Povera, qu'est-ce que ça a apporté. Et à la fin, on a une phrase code qui nous dit que tout mensonge vit de la vérité qu'il contient. Donc on est constamment entre du faux et du vrai, mais c'est tellement bien fait qu'on pense que tout est vrai.
Oui, et puis au niveau de l'histoire aussi, on parle de l'Holocauste, des Sudètes. C'est plein de références culturelles, historiques. Donc il faut aimer ça, parce que c'est un petit peu comme un jeu de piste. Hein, mais ça ne doit pas faire peur non plus, parce que c'est très très drôle, très ludique, très accessible. Eux ont un jeu pince sans rire qui fait que franchement, la salle éclate de rire très souvent. Donc voilà, c'est une pièce à voir pour passer un bon moment intelligent.
Et c'est à voir jusqu'au... Papam, qui a les dates ?
Jusqu'au 29 septembre également.
Merci Nicolas,
du côté...
jusqu'au 29 au théâtre Les Tanneurs.
www.lestanneurs.be.
Voilà, grand écart. Catherine, t'es partie hier à Aux Poches pour l'ouverture Odyssée ?
Oui, Odyssée, qui est une pièce qui traite de l'immigration, comme l'a déjà beaucoup fait le théâtre de Poche. On se souvient notamment d'une femme fantôme. Moi, ça m'avait fort marqué à l'époque, un seul en scène incroyable sur l'histoire d'une femme. Entre Afrique et Europe. Et quand on a cette pièce-là en tête, ben, on est forcément déçu par Odyssée. C'est une pièce très, très décousue d'un auteur togolais. Voilà. Avec une distribution mixte, européenne et africaine, qui se déroule, disons, en deux parties. Dans la première partie, on a une série de, une multitude de petites histoires qui se passent en Afrique. Alors, on ressent un petit peu l'esprit de débrouille qui règne là-bas. On rencontre une prostituée, un passeur qui essaie de refourguer son camion avec, avec les voyageurs à l'intérieur qui sont en transit vers la mer. On rencontre toute une foule de personnages, mais c'est très bref comme ça, 2 minutes, et puis ça change, et puis... Donc voilà, ça dépeint une Afrique un petit peu déboussolée, surtout des personnes
qui partent à l'immigration, voilà, des clandestins, quoi.
En quête d'un ailleurs, en tout cas. Mm-hmm. Et puis dans la deuxième partie, tout un groupe se retrouve sur une barque de fortune. Et là, ça vire plus ou moins à la tragédie grecque. Ils ont tous des noms de héros mythiques, Ulysse, Antigone. Et puis, alors là, c'est là où moi, ça m'a complètement perdue. Tout à coup, ça devient une télé-réalité.
C'est ce que j'avais lu aussi.
Voilà, donc il y a une bonne femme à la TF1 qui arrive et qui veut absolument faire de ce calvaire une émission à sensation où chacun vient raconter son histoire et on doit y mettre le plus d'émotions et de larmes possible. Et ça se perd comme ça dans des détours très surprenants. Moi, j'ai pas du tout été convaincue. J'ai trouvé ça très brouillon, très décousu. J'aurais préféré un seul destin qui me touche plus que ce kaléidoscope qui part un peu dans tous les sens.
Et puis les supports un petit peu de ce message. Tu disais tout à l'heure, on part d'une réalité africaine quotidienne. On est ensuite dans la tragédie grecque et puis boum, dans la télé-réalité. Est-ce qu'il y a cadres un petit peu trop différents ?
Oui, je pense qu'il fallait resserrer.
L'auteur disait qu'à un moment donné, une fois qu'ils sont en bateau, ils changent leur identité et ils prennent des noms d'héros. Donc Antigone, Clytemnée, Antigone, Ulysse et tout. Et alors le metteur en scène me disait que c'était l'idée de montrer les clandestins non pas en perte comme ils sont considérés, mais plus en héros qui viennent apporter à l'autre. Donc c'était essayer de renverser ce regard. Mais d'après ce que Catherine dit aussi, à un moment donné, quand ils tombent dans la télé-réalité, ils ne sont plus vraiment des héros.
Non, je crois que là, c'est pour dénoncer le côté voyeur de notre société installée dans le confort, qui regarde ça de loin, avec un petit peu de compassion, mais pas trop quand même.
Oui, et qu'il faut du sensationnel ou du sentimentalisme également
pour qu'on en parle.
Oui.
Et donc Catherine, toi, tu trouves que l'Odyssée est très décousue ?
Extrêmement décousu. Maintenant, il y a des belles personnalités, il y a des beaux comédiens, mais voilà, c'est pour moi, c'est pas la meilleure. En plus, ça s'avère du coup très très pédagogique parce qu'on est clairement là pour enfoncer un message. Et moi, je trouve que c'est ce qui marche le moins au théâtre.
C'est le mauvais côté du Poche parfois. C'est un des travers du Poche. Alors, c'est quand même à voir pour ceux que ça intéresse.
Encore quelques semaines parce que ça vient seulement de commencer.
Jusqu'à la mi-octobre.
Mi-octobre, voilà. Au théâtre de Poche, www.poche.be. Et rappelons que le Poche fait
des rencontres
débats avec la Ligue des droits de l'homme. Nicolas, est-ce que tu as 2 minutes pour parler de Gulnara ?
La robe de Gulnara, un spectacle créé au Festival de Spa cet été, qui est en ce moment du côté des riches clairs. On est transporté à la frontière de l'Azerbaïdjan, dans une espèce de no man's land, où dans des wagons désaffectés vivent des réfugiés. On ne sait pas très bien d'où ils viennent, pourquoi ils sont là. On imagine qu'ils sont là parce qu'ils n'ont pas pu rester, ils étaient une minorité, enfin bref, voilà. Et la vie quotidienne continue dans ce camp improvisé où eh bien, Gulnara, jeune fille, jeune femme, va épouser, eh bien, son fiancé. Tout se passe bien. On va préparer le mariage. Même si l'argent manque, on a envie de faire une cérémonie parce que la tradition est là et la famille de la jeune fille veut vraiment mettre toutes ses ressources dans ce mariage. Il se fait que la petite sœur de Gulnara, en voulant essayer la robe et en jouant avec, l'attache. Malheureusement, scandale sur la famille. Il faut absolument réparer cette faute de la part de cette petite fille. Et donc, elle est assez dynamique comme ça et elle prend tout sur elle et elle décide d'aller réparer cette faute elle-même, toute seule, comme une grande, parce qu'elle aime sa sœur, parce qu'elle aime sa famille. Elle n'a pas envie que la honte tombe sur les siens. Alors, comment ça se passe? Eh bien, il y a une mise en scène qui est assez très bien faite pour nous raconter cette histoire. C'est que tout se passe dans une armoire. En fait, une armoire est posée sur la scène, assez énorme comme ça, une grande armoire en bois. Et c'est à la fois une garde-robe, c'est à la fois une pièce d'un intérieur, c'est à la fois des lits superposés. Bref, c'est pas mal de choses. Et ça nous donne ainsi une mise en scène assez dynamique et avec un jeu très, très enjoué. Un peu trop, malheureusement, à mon goût, pour pouvoir eh bien ressentir tous les sentiments et tout le drame aussi que vit cette famille au quotidien dans ce no man's land. Donc, c'est pas mal, mais ça manque un petit peu de, non pas de liant, mais en tout cas d'intensité dans le dans le message à apporter.
C'est à voir jusque?
C'est à voir aussi jusqu'au 29 septembre du côté des Riches Clairs, www.lesrichesclairs.be.
Alors moi, je vais vous parler vite fait d'un collectif flamand qui fait parler de lui, collectif d'Anvers, qui s'appelle FC Berkman. FC comme une équipe de foot, on va dire, et Berkman parce qu'ils ont décidé de s'appeler Berkman le jour de la mort d'Igmar Berkman. Alors eux font plutôt un théâtre d'images plutôt que de textes, même s'ils ont mis par exemple Tchekhov en scène, c'est-à-dire qu'ils usent de patois, ils rentrent avec des bagnoles dans le décor. Alors dans un des spectacles, ils avaient hissé en plein air un mouton pour le représenter comme un nuage, donc ils sont un peu tarés. C'est une équipe de comédiens flamands qui sont connus en Flandre parce que certains font des films et notamment des stars dans les séries flamandes. Ici, ils viennent avec un spectacle qui s'appelle Terminator Trilogie. Alors, ils sont un peu rock'n'roll, donc il leur faut de l'espace. Ils vont dans des espaces en plein air et industriels. Ils ont promis qu'ils jouent, qu'il pleuve ou qu'il vente. Ils l'ont fait à Anvers, sous la pluie, mais les spectateurs sont, eux, protégés. Ils ont voulu prendre la trilogie Terminator, Schwarzenegger et tout, le film de leur enfance. Et finalement, ça a foiré en cours de route. D'ailleurs, l'affiche du film pendant le spectacle va se casser la gueule. Ça va être apparemment très spectaculaire. Et ils ont voulu finalement faire un spectacle sur les gens qui essayent dans la vie et qui se plantent à chaque fois, une difficulté de vivre et de faire ses rêves. Ça commence à 19h30, c'est 1h30, 1h40, c'est sans parole et avec une cinquantaine de figurants. C'est leur procédé, ils prennent des figurants. C'est un spectacle que je vous disais, bourré de belles images ou d'images spectaculaires, peut-être pas de mots. En tout cas, ici c'est silencieux avec un peu de musique. Terminator Trilogie, c'est à Tours et Taxis, le seul espace industriel plein air que les gens trouvent en théâtre à Bruxelles. C'est jusque samedi 19h30 et c'est organisé par le CAI Theater, CAI Theater. On quitte sur les chapeaux de roue cette première émission. Merci Nico, merci Catherine.
Terminator.
À la semaine prochaine.
Et n'oubliez pas le podcast de cette émission, c'est sur demandez le programme. .be et www.radiocampus.be pour toutes les informations sur les spectacles dont on vous a parlé. Très belle semaine à vous. Constelación.